la sanó a causa de su fe. El padre de la niña tampoco se rinde ante la noticia de la muerte. Jesús le dice: no temas, solo ten fe. Entra en la casa, toma a la niña de la mano y la vida vuelve. Es inmensa la fuerza de una fe sincera que toca a Jesús con confianza, aún desde la debilidad, porque deja que sus benditas manos actúen. Cuando la fe es verdadera, se confirma nuestra esperanza. La gracia de Cristo actúa y nos es devuelta la vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular a los sacerdotes y seminaristas provenientes de España, México, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, El Salvador y Venezuela. En la vida hay momentos de desilusión, de desaliento e incluso de muerte. Aprendamos de aquella mujer y de aquel padre. Vayamos a Jesús. Él puede sanarnos, puede devolvernos la vida. Él es nuestra esperanza. Muchas gracias.
教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服、特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲出的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续以耶稣基督我们的希望为主题的禧年要理讲授，今天对两个奇迹进行省思，他们彰显了因信赖耶稣而来的治愈能力。在第一个奇迹中，我们看到一个深受病苦的妇人，她受到社会的排斥，认为她不洁净。这妇人相信耶稣有能力治愈她，伸手触摸耶稣的衣裳，凭着信德她痊愈了。我们每一次凭着信德向上主祈求，他都会触动我们，他的恩宠也开始奇妙地改变我们生活的进程。在第二个奇迹中，耶稣应允一位焦虑万分但充满信德的父亲的请求，从死亡中复活了一个少女。福音的这两个技术教导我们，不要害怕在祈祷中转向耶稣，将我们交付于他的爱的治愈大能。这治愈的能力可转变看似没有希望的境遇，甚至让生命从死亡中诞生。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, assicuro la mia preghiera per tutte le vostre intenzioni di bene. A tutti la mia benedizione.
我向讲中文的人们致以亲切的问候，亲爱的弟兄姐妹们，我保证必会为你们所有美好的意向祈祷，我降福大家。
Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Ao meditarmos sobre as curas de Jesus como sinais de esperança, concentremos-nos hoje nas histórias da filha de Jairo e da hemorroíça. Esta, enquanto Jesus se dirigia para a casa de Jairo, aproximou-se dele e tocou-o, não de um modo superficial, mas movida pela fé, acreditando firmemente que ele a podia curar. E graças à fé, ela viu-se livre da doença. Entretanto, da casa de Jairo trouxeram-lhe a notícia de que a sua filha tinha morrido. Porém, Jesus tranquiliza aquele pai e encoraja-o a manter a fé. Não tenhas receio, crê somente. Também hoje é a fé que nos permite ir ao encontro de Jesus e tocá-lo ou ser tocados por ele, o Senhor que nos salva do mal e nos dá esperança. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Cari fedeli di lingua portoghese, benvenuti. Saluto in modo speciale i sacerdoti provenienti da Braga, Viana do Castelo, in Portogallo, e da Teresina, Castagnal, Nazaré e Santo Amaro, in Brasile. All'avvicinarsi della fine del mese di giugno, rivolgiamo più intensamente lo sguardo al cuore di Gesù. A partire da Lui, ridoniamo a questo nostro mondo un cuore che sa amare, perdonare e prendersi cura degli altri. Dio vi benedica.
Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, bem-vindos. Saúdo especialmente os sacerdotes vindos de Braga e Viana do Castelo, em Portugal, e de Teresina, Castanhal, Nazaré e Santo Amaro, no Brasil. Ao aproximarmos-nos do final do mês de junho, voltemos mais intensamente nosso olhar para o coração de Jesus. A partir dele, demos de novo a este nosso mundo um coração que sabe amar, perdoar e cuidar dos outros. Deus vos abençoe.
أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على شفاء المرأة المنزوفة وإحياء ابنة يائيروس رئيس المجمع في إطار تعليمه في موضوع يسوع المسيح هو رجاؤنا، وقال في حادثة إحياء ابنة يائيروس: لم يبقى يائيروس في البيت يشتكي من مرض ابنته، بل خرج يطلب المساعدة من يسوع. وعندما علم أن ابنته قد ماتت استمر في إيمانه، نجد إصرارها بأن تقترب من يسوع وتلمس رداءه لأنها آمنت أنها ستنال الشفاء. ويوجد الموت أيضا أمام كل صعابنا.
لغة عربية. Cari ragazzi, giovani e studenti, con l'inizio delle vacanze estive vi invito a continuare la preghiera e a imitare le qualità del giovane Gesù, che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية أعزائي الفتيان والشباب والطلاب مع بداية العطلة الصيفية أدعوكم إلى أن تواظبوا على الصلاة وأن تقتدوا بصفات يسوع الشاب الذي كان يتسامى في الحكمة والقامة والحضوة عند الله والناس بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy szczerego oddania i synowskiej modlitwy, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W dzisiejszej katechezie rozważamy kolejne uzdrowienia, których dokonuje Jezus. Dla nas, często zmęczonych i rozczarowanych, są one znakiem nadziei. Kobieta cierpiąca na krwotok, pragnąca choćby dotknąć skrawka jego szaty, zachęca nas do odwagi i wiary w poszukiwaniu spotkania z Panem, pomimo osądów innych. Zaś wskrzeszenie córki Jaira przypomina, że bardziej niż śmierci ciała powinniśmy lękać się śmierci duszy. Niech rośnie w nas troska o to, abyśmy sami karmiąc się Ewangelią umieli czerpać z niej pocieszenie, zwłaszcza dla dzieci, które cierpią, przeżywają kryzysy i potrzebują duchowego wsparcia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim.
Saluto cordialmente i Polaki. Vi invito a lasciarvi accompagnare ogni giorno dalla lettura del Vangelo, sia per voi nutrimento spirituale, capace di rafforzarvi nel portare la fede e la speranza nei vostri ambienti. La prossima solennità dei Santi Pietro e Paolo sia per voi un'occasione per rinnovare il legame personale con la comunità della Chiesa e la premurosa preghiera per i suoi pastori. Vi benedica di cuore.
Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Zachęcam was do codziennej lektury Ewangelii. Niech będzie ona dla was duchowym pokarmem, uzdalniającym do niesienia wiary i nadziei do waszych środowisk. A zbliżająca się uroczystość świętych Piotra i Pawła niech stanie się dla was okazją do odnowienia osobistej więzi ze wspólnotą Kościoła i modlitewnej troski o jego pasterzy. Z serca wam błogosławię.
Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
Domenica scorsa è stato compiuto un vile attentato terroristico contro la comunità greco-ortodossa nella chiesa di Mar Elias a Damasco.
Dimanche dernier, il y a eu un attentat à Damas. Confions les défunts et les victimes à la miséricorde de Dieu. Aux chrétiens du Proche-Orient, je vous dis, je suis proche. Toute l'Église vous est proche. Cet événement tragique nous rappelle la fragilité encore qu'il existe en Syrie après tant d'années de conflits. Il est donc fondamental que la communauté internationale ne détourne pas les yeux de ce pays, mais continue à lui offrir un soutien à travers des gestes de solidarité, avec un renouvellement des engagements pour la paix dans cette région. Continuons à suivre avec attention et avec espérance les développements de la situation de Palestine, d'Israël et d'Iran. Que les paroles du prophète Isaïe résonnent de façon plus urgente. Une nation n'élèvera plus les armes contre une autre. Ils n'apprendront plus l'art de la guerre. Que nous puissions écouter et entendre cette voix du prophète Isaïe. C'est une parole qui vient du Très-Haut. Il ne faut pas réagir mal aux actions dangereuses qui ont été commises. Ne cherchons pas la vengeance, mais plutôt la voie du dialogue, de la diplomatie et de la paix. Je salue également tous les pèlerins de langue italienne qui sont venus ce matin pour cette catéchèse.
In particolare, salute fedeli della diocesi di Alba.
Je salue les pèlerins venus du diocèse de Alba, qui sont venus avec leur évêque. Prenez dans l'Eucharistie la force pour devenir des témoins de l'Évangile et de la charité. Je salue aussi les sœurs missionnaires de l'Incarnation, les filles de l'Immaculée Conception, et toutes ces communautés célèbrent l'anniversaire de leur premier chapitre général. Je salue également les pèlerins qui sont venus du sud de l'Italie, de Bari. Je vous exhorte à persévérer dans les bonnes considérations de paix et de l'Évangile. Et le pape salue aussi tous les autres groupes, les militaires qui sont venus écouter et prier avec le pape.
Copiosi doni celesti per una sempre più solida testimonianza cristiana.
Que votre témoignage chrétien soit plus solide. Et je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux nouveaux époux.
Siamo entrati nell'estate.
Nous sommes rentrés dans l'été. Pour beaucoup, ce sera un temps de vacances. Faites d'utiles expériences religieuses et sociales. Et vous, les jeunes, approfondissez votre mission dans l'Église et dans la société. Je vous souhaite, chers malades, que vous ne mentiez pas pendant cet été la présence de personnes chères. Et je vous donne à tous ma bénédiction.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis ebita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Je remercie Vatican Média pour ces images, pour nous avoir permis de participer à cette audience générale. Je remercie également aussi le pape Léon XIV pour sa catéchèse. Je remercie aussi Tanguy en régie, Clémence au service web. Le prochain direct que vous pourrez suivre sur KTO est à midi pour l'office du milieu du jour depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et nous avons à avoir la possibilité aussi de retourner à Rome à 12h30 pour suivre le jubilé du pape Léon XIV avec les évêques, le jubilé des évêques. Puis cet après-midi, nous retrouverons aussi sur KTO à 15h30 la prière quotidienne du chapelet. Et ce soir, vous pourrez également participer au Vêpres à 17h30 depuis Notre-Dame de Paris, suivi de la messe à 18h. Bonne journée à tous sur KTO.
KTO Radio. Radio. Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans.
À toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le diocèse de Lyon qui comprend à la fois le département du Rhône, dont fait partie la métropole de Lyon bien sûr, et un arrondissement du département de la Loire autour de Roanne. Dans cette édition, on suivra une rencontre des nouvelles fraternités catéchuménales qui ont pour objectif de permettre à ceux qui reçoivent les sacrements de l'initiation chrétienne de mieux s'intégrer dans l'Église. Et on découvrira un nouveau mode de présence de prêtres dans des paroisses sans curé, le prêtre itinérant. Le département du Rhône reste un département dynamique qui bénéficie du deuxième PIB français après Paris, un département tiré par Lyon et sa métropole bien sûr. C'est un territoire marqué par des réalités variées entre plaines, collines viticoles et zones urbaines très denses. Et le diocèse de Lyon, vous le savez peut-être, est le plus ancien diocèse de France, marqué par les figures de Saint Potin, de Sainte Blandine ou bien encore de Saint Irénée. Pour parler du diocèse de Lyon, je reçois son archevêque, Monseigneur Olivier de Germay. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Je viens de faire une rapide présentation du territoire dont vous avez la charge. C'est un diocèse qui est marqué par des sensibilités ecclésiales, des réalités très variées. Comment est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots pendant que s'affichent les chiffres clés de ce diocèse ?
Moi, ce qui me vient spontanément en parlant du diocèse de Lyon, c'est le dynamisme. C'est un diocèse qui est très dynamique. Effectivement, il y a une grande diversité, on insiste souvent là-dessus, c'est pas faux. Quand vous passez des paroisses de banlieues populaires, le centre-ville, l'ouest lyonnais, le rural, c'est assez différent. Mais ce qui me marque, c'est qu'un peu partout, il y a un beau dynamisme, une belle créativité, et en particulier une créativité missionnaire. Donc c'est super.
On va découvrir ça avec vous. Quelques dates peut-être pour rappeler, mieux connaître votre parcours, Monseigneur Olivier de Germay. Vous êtes donc archevêque de Lyon depuis 2020. Né en 1960 à Tours, en Indre-et-Loire, vous avez été officier parachutiste avant d'entrer au séminaire et d'être ordonné prêtre pour le diocèse de Toulouse en 1998. En plus de vos charges de vicaire ou de curé, vous avez notamment été professeur de théologie sacramentale et de la famille à l'Institut catholique de Toulouse de 2008 à 2012. Et 2012, c'est l'année justement où vous avez été ordonné évêque pour le diocèse d'Ajaccio en Corse. Vous êtes donc resté en 2020. Je mentionne votre devise épiscopale qui vient de la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. Le Christ a aimé l'Église. L'Église, bien sûr, on va en parler. Vous êtes dans un diocèse marqué par le catholicisme social avec des figures célèbres comme Frédéric Ozanam ou Pauline Jaricot. Comment est-ce que vous avez accueilli l'élection de notre nouveau pape, Léon XIV, qui a choisi son nom en référence à Léon XIII et à sa première encyclique sociale ?
Alors, effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué à Lyon, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un diocèse qui a eu une longue tradition de ce catholicisme social, et donc cette attention aux différentes formes de pauvreté. Il faut aussi souligner que ce catholicisme social, il existe aussi grâce à un certain nombre de personnes, de familles, parfois aisées, mais qui ont aussi cette tradition de soutenir l'Église dans cette dimension de sa mission. Donc c'est quelque chose de très beau. Effectivement, le pape, tout de suite, on a dit, avec son nom, il fait référence à Léon XIII, qui a fait face finalement au défi de la révolution industrielle. Et je crois que le pape Léon a bien compris qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose qui était un peu du même ordre. C'est pas la révolution industrielle, c'est plutôt la révolution numérique. Mais ça pose aussi de grandes questions à l'Église et au monde. Et il faut prendre ça en compte pour l'évangélisation.
On est dans une année jubilaire sous le signe de l'espérance et ces dernières semaines vous avez participé à deux pèlerinages diocésains importants, à Rome justement pour le jubilé et puis à Lourdes. Comment est-ce que ces rencontres avec les diocésains sont l'occasion de renforcer l'espérance des baptisés ? On va voir quelques images.
Alors il y a eu le pèlerinage diocésain effectivement à Lourdes. avec un nombre tout de même restreint de pèlerins. Mais personnellement, j'ai toujours aimé le pèlerinage parce que c'est vraiment l'occasion de sortir de sa routine quotidienne et de vivre une expérience spirituelle forte. Ça a été vraiment très beau à Rome. On était entre deux, puisqu'il y a eu, juste avant, il y a eu les obsèques du pape François et il n'y avait pas encore eu l'élection du pape Léon. Donc il y avait une espèce d'entre-deux, mais c'était un très beau moment. Et j'ai été très marqué, je dois dire, par le pèlerinage diocésain à Lourdes. Là, c'est un autre format, puisqu'il y avait 2400 pèlerins, dont 945 jeunes. Et je trouve que c'est vraiment une formule qui marche bien, avec ce brassage des générations et les jeunes qui participent au pèlerinage à Lourdes, qui sont au service des personnes malades, souvent des personnes âgées, ils en reviennent transformés. C'est ça qui est très beau, c'est qu'à la fois transformés par le service, par ce contact avec des personnes qui vivent parfois des choses difficiles, et puis il y a la grâce de Lourdes, et puis il y a ce que les jeunes vivent entre eux, il y a des veillées de prière, ou pour certains, parce qu'il ne faut pas croire que ce soit que des jeunes hyper-cathos qui viennent, hein. Il y a des jeunes qui ont parfois un peu décroché par rapport à la foi, même certains qui ne sont pas baptisés, ils rentrent de Lourdes, ils sont boostés, vraiment, et c'est vraiment très beau à voir.
Alors à Lyon, comme partout en France, le nombre de jeunes et d'adultes qui demandent le baptême ne cesse d'augmenter. Et les fraternités catéchuménales ont justement pour objectif de permettre à chacun de mieux s'intégrer dans l'Église. Certaines paroisses du diocèse ont d'ores et déjà commencé le parcours. C'est le cas de la paroisse Sainte-Blandine du Fleuve, dans le sud-ouest de Lyon, qui a lancé des fraternités catéchuménales en octobre dernier. Notre journaliste Anne-Chantal Giraud a participé à l'une de ces rencontres mensuelles il y a tout juste quelques jours.
C'est un trajet que Delphine a l'habitude d'emprunter tous les mois depuis un an.
Je me rends à mon assemblée catéchuménale.
Néophyte, cette jeune mère de famille est fraîchement confirmée depuis la Pentecôte, mais elle continue de participer aux rencontres.
Les fraternités catéchuménales, elles m'ont beaucoup aidée dans mon parcours parce que déjà, j'ai fait de belles rencontres. C'est le côté humain, il y a un côté qui est vraiment humain et hyper fraternel. Parce que l'Église, forcément, ce n'est pas que des apprentissages, c'est une famille.
Bonsoir
François. Bienvenue. Ça va?
Bienvenue.
François Ventilque, qui assure le lien avec la paroisse pour l'initiation chrétienne des adultes, a lancé ses fraternités avec le curé en octobre dernier.
Nous avons constitué des groupes qui se veulent dynamiques, qui sont constitués en moyenne de 7 à 8 personnes. Alors ça a été un changement important déjà dans le déroulement de notre accompagnement, puisqu'on est passé d'un accompagnement purement individuel à un accompagnement mixte, à la fois individuel et en fraternité.
Des fraternités qui rassemblent une diversité d'âge et de profils.
C'est la première fois que je suis là aujourd'hui. C'est ma première pour ma préparation de la confirmation.
Ça fait un an et trois mois à peu près que j'ai commencé mon chemin.
Alors je suis animateur d'une fraternité.
Après les retrouvailles autour d'un petit dîner convivial, la soirée peut commencer. Delphine est invitée à partager ce qu'elle a vécu il y a quelques semaines pour sa confirmation.
J'ai pris le temps de me préparer suffisamment pour accueillir ce sacrement. Merci à vous tous surtout. Parce que les uns sans les autres, je crois qu'on n'aurait pas le même chemin et on ne peut pas vivre la foi tout seul.
Ce soir, les fraternités partagent autour du thème de l'Esprit-Saint à partir d'un livret support proposé par la Conférence des évêques de France.
Quelle force intérieure j'ai? Quelle force intérieure qui me pousse à aller de l'avant?
On part toujours des témoignages de vie complètement déconnectés de la religion, de Dieu, de la foi. La deuxième partie, c'est que j'amène cette question avec la foi chrétienne, toujours à partir de la parole.
Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu.
Catéchumène, confirmant, accompagnateur, pour chacun, c'est un moment enrichissant.
Ça m'apporte beaucoup de joie de faire cette démarche. Avant, j'étais peut-être un peu seule.
Et nous, en tant qu'accompagnateurs, ça nous oblige à faire un discernement, à essayer d'être un peu plus clair sur notre propre parcours.
Partager sa foi aussi permet, je pense, de peut-être faire développer la foi des autres.
Devant l'augmentation des demandes, une quatrième fraternité catéchuménale doit ouvrir à la rentrée, cette fois-ci spécifiquement dédiée aux jeunes.
Alors on l'a vu à travers ces reportages, hein, les fraternités catéchuménales, elles concernent à la fois des paroissiens, ceux qui se préparent au sacrement. C'est une façon de répondre à ce défi de l'intégration et aussi de la transformation de la paroisse ?
Ça a beaucoup de vertus, en fait, les fraternités catéchuménales, parce que moi, j'ai écrit ces orientations il y a bientôt 2 ans. Rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait, cet afflux de catéchumènes qui arrivait, mais qu'il ne suffit pas d'avoir des catéchumènes, il faut en faire des disciples. Mmh. Et l'accompagnement individuel, il se vit des belles choses, mais c'est largement insuffisant. Et donc, la fraternité, bien sûr, c'est un lieu déjà de fraternité, comme le nom l'indique, c'est-à-dire d'incorporation. Parce que sinon, si on attend le baptême pour se demander qu'est-ce qu'on va faire pour les garder, c'est trop tard. Donc c'est avant qu'ils doivent être incorporés dans une cellule d'église. C'est leur première église, si vous voulez, pour eux. Et puis, c'est un lieu aussi de croissance. On va apprendre. Il ne s'agit pas simplement d'étudier la parole de Dieu, même si c'est très important, bien sûr, mais apprendre à prier. C'est un lieu d'initiation. On va apprendre à prier, on va être initié à la liturgie, on va être initié au service des pauvres. Il y a des fraternités qui vont faire des maraudes, par exemple. Oui. On va être initié à faire le lien entre sa foi et sa vie de tous les jours. Bon, donc, c'est vraiment un lieu de croissance. Et comme l'idée, c'est que cette fraternité, il y a aussi il y a un brassage. Il peut y avoir des catéchumènes, il peut y avoir des néophytes. Il faut qu'il y ait des paroissiens, entre guillemets, lambda. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce que ces paroissiens lambda qui ont parfois, finalement, qui viennent à la messe, et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas formés. Et du coup, ça les oblige à se former. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et ça, de fait, ça modifie le visage, le profil de nos communautés. D'abord parce que ces catéchumènes, ils arrivent de tous les milieux sociaux, mais aussi parce que ça booste, si vous voulez, les paroissiens lambda, ça les aide à redécouvrir ce dynamisme missionnaire.
La notion de fraternité, elle semble au cœur de votre action pastorale, puisque vous avez aussi lancé en septembre de l'année dernière, septembre 2024, les fraternités missionnaires. Pourquoi est-ce que c'est le fil rouge pour vous de la vie chrétienne ?
En fait, les choses se sont faites naturellement, puisque précisément, pour avoir des fraternités catéchuménales, on s'est aperçu qu'on avait besoin de paroissiens. Et comme le nombre de catéchumènes ne cesse d'augmenter, les prêtres, ils sont venus me voir en me disant « mais non, on n'y arrive plus ». Je dis « c'est toute la paroisse qui doit se sentir concernée ». Donc moi, j'ai dit, au fond, j'ai lancé un peu un appel à la mobilisation générale en disant « mais tout le monde en fraternité ». Bon, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment que l'ensemble
des... Et ça répond, parce qu'on l'entend beaucoup dans les diocèses, mais est-ce que les catholiques réussissent à rentrer dans cette conversion de la fraternité ?
Moi, je vois que ça répond, oui. Suivant les paroisses, bien sûr, ça va demander plus ou moins de temps. Mais on voit vraiment des gens qui se lancent dans cette aventure, qui se forment. Alors, soit pour être dans une fraternité catéchuménale, soit dans une fraternité tout court, mais qui va être une fraternité missionnaire. Parce que ça fait longtemps que dans l'Église, il existe des petits groupes de gens qui se connaissent, et ces petits groupes ont beaucoup de vertus. Parfois, ça tourne un peu en rond. Là, l'idée, c'est de se dire, il faut aussi que ça soit le lieu où on se forme pour la mission. Est-ce que je suis capable de répondre à mon voisin ? Puisqu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se posent des questions sur la foi. Bon, et s'ils me posent des questions sur ma foi chrétienne, est-ce que je suis capable de dire comment le Christ est présent dans ma vie ? Quelles sont les merveilles qu'il a fait dans ma vie ? Donc tout ça, c'est ça demande une formation et c'est un début de ces fraternités missionnaires.
On voit aussi que le témoignage dans l'espace public, finalement, prend un peu plus de place. Il y a évidemment la fête des Lumières où l'Église catholique à Lyon est très engagée. Je pense aussi à la marche pour Jésus qui a eu lieu fin mai à Lyon, où des chrétiens de différentes confessions se sont rassemblés, mais c'est un rassemblement au départ de protestants évangéliques. Quel bilan est-ce que vous faites de cette participation au sein de cette équipe œcuménique ?
Alors, c'était un peu une première, et je dois dire que ça s'est réalisé en particulier grâce à un prêtre qui était très motivé pour ça, et qui a cette fibre de l'évangélisation des milieux populaires. Il faut bien connaître que parfois on est un peu à la traîne dans ces milieux-là, et c'était très beau parce que d'abord, effectivement, c'est une activité œcuménique. On a pu voir des pasteurs qu'on ne voit jamais, parce qu'il y a certains pasteurs, y compris évangéliques, qu'on voit régulièrement, puis d'autres qu'on ne voit jamais. Donc, de ce point de vue-là, c'était pas mal. Et puis, c'était quand même beau de voir tous ces jeunes qui défilent paisiblement dans la joie pour annoncer le nom de Jésus. Pour moi, ça fait partie de ces signes qu'on voit en ce moment qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le diocèse de Lyon, plus largement en France, et d'après ce que je crois, aussi dans d'autres pays européens, où on assiste quand même à un certain réveil missionnaire. Et moi, j'y vois d'abord le doigt de Dieu. C'est vraiment, il y a le Seigneur qui est en train de faire des choses. Et souvent, je dis à mes collaborateurs, peut-être nous, avant de réfléchir à ce qu'il faut faire, essayons de dire qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire là, pour essayer de nous mettre à son service et pas l'inverse.
Dans le discernement justement en cours, face à la baisse du nombre de prêtres dans le diocèse, il y a un nouveau mode de présence qui est expérimenté dans deux paroisses du nord du département, Saint-Joseph d'Azergue et Notre-Dame du Haut-Beaujolais, qui sont sans curé depuis un an. C'est un prêtre itinérant qui vient visiter ces paroisses 3 jours par mois pour soutenir et accompagner les chrétiens répartis sur 22 clochers. Et le reste du temps, les activités de la paroisse sont supervisées par une laïque en mission ecclésiale. Une collaboration prêtre-laïque que nous explique Patricia Carrette, coordinatrice des deux paroisses, et le père Vincent Charmé, vicaire de la paroisse Saint-Augustin en Beaujolais et prêtre itinérant.
Quand je suis arrivé, il y avait certains paroissiens qui exprimaient une inquiétude, voire même un peu une colère contre le diocèse, par en remplacer le curé. Pour autant, je vois que durant toute l'année, les paroissiens me réservent un accueil très chaleureux. Et alors quand je suis ici, je célèbre des messes, je visite des personnes, on le fait même tous les deux souvent. Je prépare des baptêmes, il y a la préparation aussi au mariage. J'ai la vie d'un vicaire habituel.
Moi, je suis censée encadrer la catéchèse, les catéchistes, et coordonner effectivement les informations, la communication, essayer d'appeler des gens depuis les niveaux matériels jusqu'au niveau peut-être liturgie, préparation, mariage, baptême.
La collaboration prêtre-laïque est très féconde parce que Patricia, en fait, connaît tout le monde. Elle est sur la paroisse depuis 30 ans, donc elle connaît tout le monde. En fait, tu m'as aidé très facilement à m'intégrer. Ce qu'on organise, c'est aussi une fois tous les 2 mois, le samedi, quand je suis là, on fait une journée fraternelle pour essayer de rassembler la communauté.
Ça permet aussi aux gens de se sentir peut-être moins orphelins, parce que les gens sont très, très attachés à la figure du prêtre. Ça nous fait réfléchir comment nous, on peut se saisir de notre mission de baptiser.
On a fait cette année 3 jours de mission. On a déjà vu une personne ou l'autre que ça a un petit peu remis en chemin. En fait, je crois que c'est ça l'enjeu, hein. C'est vraiment la baisse des prêtres fait qu'il faut que chacun se réapproprie son baptême pour en être disciple missionnaire.
C'est une chance, mais il nous faut nous laisser la chance aussi d'avoir des prêtres itinérants qui viennent nous visiter et nous accompagner.
C'est un témoignage vraiment intéressant. Quel premier bilan est-ce que vous faites de cette expérience, sachant, on l'a entendu, que ce prêtre n'est pas présent le dimanche, justement?
Oui, alors c'est une expérience, donc on est dans les débuts, hein, il faut être modeste. Et si vous voulez, l'idée, l'intuition de départ, c'est de dire, la tentation qu'on a, on voit bien que le nombre de prêtres diminue encore, hein, même si on espère bien, là aussi, qu'il y a un réveil des vocations, c'est de dire, on va être moins nombreux, on va répartir nos forces sur le terrain, et puis le risque, c'est de faire des soins palliatifs, quoi. Or, les soins palliatifs, c'est bien pour un mourant, mais l'Église, c'est pas un mourant. Donc, il faut faire autre chose. Donc là, il n'y a pas de curé, c'est une réalité. Bon, OK, il n'y a pas de curé, il y a bien sûr un administrateur qui supervise un peu tout ça. Mais l'idée, c'est de faire une sorte de un peu de choc pour dire aux gens, bon, maintenant, il faut se réveiller. On n'a pas de prêtres, mais l'Église, ce n'est pas que les prêtres. Il y a une autre façon de vivre notre vie chrétienne. Il faut que bien sûr, on a besoin de prêtres, mais il faut que les baptisés se réveillent un peu, se réapproprient leur foi et soient missionnaires. Donc, il y a un prêtre qui vient de temps en temps, si possible, avec une équipe pour faire un peu des missions, un peu d'évangélisation, pour animer un certain nombre de choses. Mais il faut que parallèlement, sinon ça ne marchera pas, on veut là aussi susciter des fraternités pour que dans les villages, les gens prennent en compte, soient capables d'ouvrir l'église, d'organiser un temps de partage de la parole, un temps de prière, aller visiter les malades et aussi aller voir les gens et témoigner de leur foi. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de faire du neuf avec ce qu'on a et en espérant que ensuite les choses puissent renaître et puis qu'il y ait des vocations.
Je voudrais revenir sur une réalité un peu plus douloureuse qui concerne aussi votre diocèse, les vitraux réalisés par Louis Ribes, un prêtre artiste né et mort dans la Loire, surnommé le Picasso des églises. Plusieurs dizaines de personnes se sont faites connaître et ont témoigné avoir subi des agressions sexuelles lorsqu'elles étaient enfants, à partir des années 70, dans les départements de la Loire, du Rhône et de l'Isère, notamment pendant des séances de pose, où il leur demandait de poser nus. Est-ce que tous les vitraux qu'il avait réalisés et qui étaient dans des églises, notamment du diocèse de Lyon, ont été déposés, ont été retirés?
Alors, effectivement, nous avons fait ce choix et je crois que c'est pas quelque chose de théorique parce que les situations peuvent être diverses. Dans cette situation, nous avons fait le choix de retirer ces vitraux qui avaient été réalisés, qui étaient le prétexte pour abuser d'enfants, oui. Leur réalisation. Et donc, nous avons fait le choix de tous les retirer. Donc, actuellement, c'est fait. Il reste, je crois, un lieu où, pour des raisons techniques, ce n'est pas encore fait, mais ça va être fait dans les semaines qui viennent. Oui.
Peut-être une dernière question sur votre diocèse, qui a une grande tradition de dialogue interreligieux, notamment avec les communautés juives et musulmanes. On connaît le contexte actuel, les tensions très fortes dues notamment à l'actualité au Proche et Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme archevêque de Lyon? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que les relations sont... Il y a cette tradition à Lyon, ça c'est très clair. Et entre responsables, on se connaît, on s'apprécie, on se respecte. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, entre les religieux, les responsables musulmans, responsables juifs, c'est un peu tendu, on peut le comprendre. D'ailleurs, nous avons un peu un rôle parfois un peu de médiateur. Cela dit, on continue à avancer. Il y a des belles initiatives. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une marche pour la paix à Villeurbanne entre juifs, chrétiens et musulmans. Donc, il y a quand même des choses qui se font. Moi, je crois qu'il ne faut vraiment pas renoncer à ce dialogue. On a vraiment quelque chose à dire. Vous voyez bien que nous sommes dans un monde où il y a une espèce d'engrenage de la violence, là, cet engrenage absurde de la violence, et je crois que nous devons avoir ça en commun dans les différentes religions, de dire stop, il faut arrêter cet engrenage, et c'est pas avec des bombes qu'on va faire la paix, et qu'il faut arriver à se parler, et on n'est pas fait pour s'entretuer, mais on est fait pour vivre ensemble et pour s'aimer les uns les autres, donc je crois qu'on a vraiment quelque chose à dire.
Merci Monseigneur Olivier de Germay, on va passer maintenant à la séquence des questions de terrain. Et on a une première question de Marie-Simone, qui habite Villeurbanne, qui est une retraitée engagée bénévolement dans de nombreux lieux d'église.
Les réfugiés qui arrivent, est-ce qu'ils ont leur place dans le bénévolat? Parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de toit, ils sont en attente de la régularisation. Est-ce qu'on peut les accueillir? Comment ça se passe?
Alors oui, dans le diocèse, nous avons cette expérience, je dirais, d'accueil des migrants. Ça a été le cas d'ailleurs les deux dernières années de façon un peu particulière. Comme bénévole, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est plus compliqué, ça serait plus compliqué pour être salarié. Mais comme bénévole, je crois que tout le monde est bienvenu pour s'associer à notre œuvre commune. Oui.
On a une autre question de Georges qui voudrait poser une question au nom de toute la communauté lusophone de langue portugaise, donc qui habite Lyon.
On voudrait savoir de quelle façon on pourrait un petit peu, ou même beaucoup, compter sur le diocèse de Lyon pour faire en sorte que ces communautés lusophones puissent avoir quelqu'un qui les organise, qui puisse nous donner une certaine direction pour vivre la foi pleinement. Merci beaucoup.
Alors, je dirais qu'effectivement, la communauté portugaise, elle est importante à Lyon, et puis elle apporte quelque chose, je crois. Ce sont des gens qui ont une foi qui est assez vive. On essaye de faire en sorte qu'il y ait des prêtres qui parlent portugais ou qui sont portugais, qui puissent célébrer des messes. Après, je dirais, il y a toujours un équilibre à trouver pour ces communautés nationales, d'être à la fois, d'avoir des moments où ils peuvent se retrouver entre eux, puis aussi de s'intégrer. Ils sont aussi dans un diocèse de France. Il faut aussi qu'ils puissent s'intégrer. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais on a bien ce souci en tête, oui.
Et on a une dernière question d'Isabelle de la paroisse de la Rédemption Saint-Joseph.
Bonjour Monseigneur. En fait, j'aimerais savoir comment le choix est fait de mettre un ou plusieurs prêtres dans telle ou telle église de Lyon. Et à côté de ça, quelquefois à la campagne, il y a un seul prêtre pour de nombreux clochers. Voilà comment vous faites ce choix-là. Merci.
Alors les nominations, c'est vraiment le casse-tête pour un évêque et pour ses collaborateurs, puisqu'il y a de moins en moins de prêtres. Les gens ont parfois l'impression que le rural est un peu délaissé et qu'il y a moins de prêtres en rural. En fait, c'est surtout parce que la densité de population est différente. Proportionnellement, je pense qu'il y a plus de prêtres dans le rural qu'en ville. Parce qu'en ville, une paroisse peut avoir 50, 60, 80 000 habitants. Là aussi, il y a une question d'équilibre à trouver, c'est pas si simple. Mais en tout cas, notre souci, c'est de faire en sorte que les fidèles puissent avoir les prêtres dont ils ont besoin.
Merci, Monseigneur Olivier de Germay. Une dernière question à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a peut-être tel ou tel rendez-vous que vous avez envie de lancer à ceux du diocèse de Lyon qui nous regardent dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois?
Alors là, on arrive à l'été, donc C'est un diocèse, vous savez, avant j'étais en Corse, l'été il y avait beaucoup d'activités, c'est un peu différent. À Lyon, il y a pas mal de choses de la vie ordinaire de l'Église.
Qui s'arrête,
donc c'est un peu... Et puis je crois qu'on a tous besoin d'un petit peu de repos. Moi, le
vous-même,
premier.
Vous allez pouvoir vous reposer?
Oui, je vais partir un peu au mois d'août, mais pas encore. Là, je pars demain à Rome pour le jubilé des évêques,
oui. Hein,
parce que nous aussi, les évêques, nous avons besoin de vivre cette démarche jubilaire. Mais ensuite, non, moi, c'est toujours... si j'avais un appel à lancer aux gens, c'est de s'émerveiller devant ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et parce que je vois parfois des gens qui se découragent un peu, on voit ce qui ne va pas. Il y a vraiment de belles choses en ce moment. Ça doit nous encourager à nous former, d'abord à approfondir notre relation au Christ et apprendre à être missionnaire, pas tout seul, avec d'autres. Et je crois que nous ne serons pas déçus, nous allons voir de belles choses dans les mois et dans les années à venir.
Merci beaucoup, Mgr Olivier de Germay, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Lyon, rendez-vous sur le site internet lyon.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Écoutez KTO Radio.
Oh,